C'est parti pour un dimanche de campagne, l'émission qui fait le point sur les déclarations politiques du week-end et de la semaine, des fois que vous ayez raté quelque chose. On y revient en détail grâce à la semaine politique de Cyril Lacarrière, avec au programme les suites de la primaire populaire et l'opposition qui presse Emmanuel Macron de se déclarer.
On a un président de la République qui se sert des deniers publics. On est clairement sur du détournement de fonds publics.
Ça, c'est le député LR Christian Jacob. Pour le reste, les derniers jours ont surtout été marqués par un duel à distance à l'extrême droite. On n'oublie pas les événements politiques du jour. Fabien Roussel en meeting à Marseille qui propose une nouvelle théorie économique.
Ce qui coûte cher, c'est sa théorie du ruissellement. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement.
Oh. Anne Hidalgo, elle est à Lille. Quant à Gérald Darmanin, qui était sur France Inter à la mi-journée, il ne fait pas dans la nuance quand il parle du chef de l'État.
Il n'y a pas un Français, je pense qu'il n'a pas été un bon président de la République.
À 9 semaines du premier tour de la présidentielle, on reviendra sur cette campagne qui peine à décoller. Une campagne Tefal, disait lundi sur notre antenne Brice Teinturier de l'Institut Ipsos, qui vient de publier un nouveau sondage. On l'évoquera. Pour aborder tous ces sujets, à nos côtés ce soir, un confrère et une consoeur de la presse écrite. Bonsoir Ava Jamshidi.
Bonsoir.
Grand reporter au magazine Elle. Bonsoir Charles Sapin.
Bonsoir.
Journaliste politique au Figaro. Yaël Gauze, chef du service politique de France Inter, est avec nous également. Bonsoir Yaël.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Thomas Legrand, qu'on ne présente plus, est là lui aussi. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Claire.
Vous êtes venu comme toujours avec vos bobineaux pour nous rafraîchir la mémoire. Ce soir, comment les présidents en exercice ont annoncé leur candidature ? Exemple, Jacques Chirac.
Je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat.
Voilà pour Jacques Chirac. On retrouvera Jean Massier pour Au Like Citoyen la semaine prochaine. Jean a été rattrapé par le Covid. On l'embrasse très fort. Un grand merci à Cyril Lacarrière, le rédacteur en chef de cette émission, à Stéphanie Texier, notre réalisatrice, et à Juliette Delperroux, qui est à la technique.
Un dimanche de campagne. Claire Servageant sur France Inter.
Et pour commencer, l'actualité politique du week-end. L'extrême droite était de sortie hier, Marine Le Pen à Reims, Éric Zemmour à Lille, où le candidat de Reconquête a fait dans le social.
Défendre la justice, c'est enfin revaloriser le travail. Car à la fin des fins, votre pouvoir d'achat, c'est le fruit de votre travail. C'est celui que vous avez mérité pour 4 semaines d'efforts et parfois de sacrifices. Pour 30 jours de rigueur et de sérieux. Oui, travailler plus pour gagner plus était un excellent principe. Et oui, l'exonération de charges et la défiscalisation des heures supplémentaires étaient une excellente idée.
6000 personnes à Lille pour applaudir Éric Zemmour, 1 000 dans la rue pour dénoncer la haine. Car si Éric Zemmour reprend le fameux slogan de Nicolas Sarkozy, vous venez de l'entendre, travailler plus pour gagner plus, il reste quand même sur ses fondamentaux, lutter contre le grand remplacement pour lutter contre le grand déclassement. Marine Le Pen, elle était à Reims où elle a déroulé ses thèmes de campagne habituels devant 4000 personnes, avant de terminer son intervention sur une note beaucoup plus intime. En voici quelques extraits.
Depuis loin que mes souvenirs me portent, la politique fait partie de mon existence. J'ai l'habitude de dire que j'ai escaladé la politique par la face nord. Et puis il y a eu cet attentat. J'avais 8 ans. Le silence d'abord, puis la fumée, les voix qui appellent. Le sentiment de n'avoir plus rien sous nos pieds que mon petit lit d'enfant en équilibre dans le vide. Et puis je suis devenue maman d'une famille nombreuse, vite, des enfants merveilleux. Alors mes amis, aujourd'hui, à l'heure où je me présente devant vous, devant les Français, pour la fonction suprême, je suis prête.
Marine Le Pen, qui s'était confiée au Figaro 2 jours plus tôt, on y reviendra. Pour elle, le zémourisme est un communautarisme et elle retrouve chez son concurrent les catholiques traditionnalistes, les païens et quelques nazis, fin de citation. Pour le communiste Yann Brossa, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité.
On en est là aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui reproche à Zemmour d'avoir des fachos en gros autour de lui. C'est un peu Camembert qui dit à Roquefort tu pues. Parce que la réalité, c'est qu'il suffit d'aller sur Google et vous retrouverez toutes les photos de Marine Le Pen avec un ancien Waffen-SS qui s'appelait Schönhuber.
Voilà, Yann Brossa sur LCI. Autre commentaire chez nos confrères de RTL, Gilbert Collard qui a rejoint le camp Zemmour.
C'est tout de même extraordinaire de voir que Marine Le Pen utilise contre le mouvement Reconquête une insulte du type que le Rassemblement National a subi pendant des années. C'est incroyable. Moi, je pense que quand il n'y aura plus personne au Rassemblement National, elle va finir présidente d'SOS Racisme. C'est son destin maintenant, il n'y a pas de doute. Bon, voilà.
Voilà, Gilbert Collard qui a quand même déclaré aussi ce week-end, il est clair qu'au second tour, il va falloir qu'on se réconcilie. Voilà pour le panorama général. Charles Sapin, allez, je commence avec vous. Vous suivez l'extrême droite, la droite nationale pour le Figaro. Vous étiez à Reims hier, vous avez l'habitude de suivre Marine Le Pen. Est-ce que vous avez été surpris par ses confidences lors d'un meeting comme celui-là?
Ah, tout à fait. C'est assez inédit parce que, en fait, ce ton intime, Marine Le Pen ne l'a jamais pris en meeting. Elle avait pris la plume pour le raconter dans son livre à contre-flot. Il y a eu aussi ces moments on se souvient de l'émission de Karine Le Marchand, mais bon, c'était en gros 2 fois 10 minutes en 10 ans. Là, c'est très différent de le faire dans un hangar face à 4000 personnes, faire ce pas de côté pour parler d'elle. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi elle choisit ce moment pour abattre cette carte, qui est en fait une rupture par rapport à cette carapace qu'elle a toujours portée. Elle essaye de jouer la carte personnelle, intime, pour se différencier de ses adversaires, qui sont Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Éric Zemmour, qu'elle dépeint en trublion, turbulent, qui divise la France et les Français. Et Emmanuel Macron, qui est dépeint, lui, en machine froide, inhumaine. Et elle se pose là, en mettant en avant un parcours de femme avec de multiples épreuves, dont toutes les cicatrices auraient terminé de fignoler, en fait, cette posture de futur chef d'État. Elle se pose un peu en figure maternelle réconciliatrice. Mais c'est une carte qu'elle abat maintenant, parce que les précédentes n'ont pas marché. Enfin, c'est...
Avad Jamshidi.
Oui, la volonté de se démarquer d'Éric Zemmour se fait sur le fond, mais elle tient quand même sur sa ligne. Tout la pousse à se radicaliser aujourd'hui, Marine Le Pen, mais elle ne le fait pas. En revanche, cette démarcation, elle l'a fait en jouant sur cette carte femme qu'on ne lui connaissait pas trop. L'expression qui est beaucoup revenue pour qualifier cette manière de procéder, c'est fendre l'armure, ce qui est assez intéressant parce que traditionnellement, ce que l'on attend d'un homme en meeting, c'est plutôt d'endosser le costume. Là, Marine Le Pen essaie de camper dans le rôle d'une femme. D'ailleurs, on l'a bien vu lors de ce meeting. Elle a quitté le pupitre derrière lequel elle se trouvait en essayant d'adopter une gestuelle peut-être un peu différente de celle lors de laquelle elle a déroulé son programme. Et ça, c'est assez nouveau, effectivement. Mais c'est pour elle vraiment une carte maîtresse de jouer cette carte qu'elle déroule également sur le fond des mesures avec de nouveaux dispositifs qu'elle a avancés, notamment concernant les familles monoparentales, puisqu'elle propose le doublement de ces allocations. Et je pense que c'est un fil qu'elle va continuer de dérouler dans l'espoir de se démarquer d'Éric Zemmour qui la talonne dans les sondages.
En rappelant qu'elle-même, elle a élevé aussi ses enfants seuls à un moment, ça c'est certainement pas par hasard. Mais sur ce côté fragile et nouveau, Yael Gauz, on a quand même eu déjà il y a quelques jours la peine par rapport à Marion Maréchal. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là.
Oui, et c'est un fil qu'elle tire à double tranchant. Parce que en réalité, c'est une stratégie qui pourrait être vue comme une stratégie de second tour, ce qu'elle fait aujourd'hui. Jouer sur l'affectif, l'émotion, le rassemblement, mère de la France, mère de la patrie, enfin ce que vous voulez comme image, alors que ça ne la sert pas forcément dans le premier tour, où personne ne sait qui sortira du chapeau entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc ce qui est plutôt habile pour une perspective de rassemblement éventuel un jour, s'il faut se battre face à Emmanuel Macron pour elle, pour le RN, et ce qu'elle doit faire là dans l'immédiat, il reste plus que 63 jours, c'est-à-dire être en tête au premier tour. Donc est-ce que cette stratégie, finalement, de dédiabolisation poussée à son paroxysme ne la perd pas pour une qualification au deuxième tour? C'est l'équation qui commence à être débattue dans les équipes en interne et la question est posée en tout cas. Elle se la pose peut-être pas elle aujourd'hui, mais autour d'elle, au RN, ça discute.
Alors vous avez tous envie de prendre la parole. Charles Sapin d'abord peut-être.
Non, mais pour rebondir,
après Thomas, promis.
C'est très intéressant ce que vous dites et c'est vrai et ça fait beaucoup de débats au sein du Rassemblement National. C'est vrai qu'elle n'a jamais, d'ailleurs ça se voit dans les intentions de vote, enfin pas les intentions de vote justement, les sondages plutôt qualitatifs, on voit, elle n'a jamais été aussi populaire. Ouais. Mais les cimetières politiques sont pleins finalement de gens qui battaient tous les records de popularité, de Simone Veil en passant par François Bayrou, bon même si là j'enterre un peu vite, mais c'est vrai que il y a aussi un autre atout en vue du premier tour. C'est vrai que ça nourrit une stratégie de second tour pour susciter moins de rejet, mais pour le premier tour, il y a quand même un petit avantage que Marine Le Pen peut en tirer. C'est qu'avec cette posture un petit peu victimaire, on l'a vu avec quand Marion Maréchal a dit qu'elle penchait pour Éric Zemmour, en fait, elle se pose en femme qui assume certaines cicatrices, faiblesses, qui fait qui rendent d'autant plus odieuses les attaques éventuelles d'Éric Zemmour contre elle.
Thomas Legrand.
Tout a été dit. Je soulignerai simplement que cette façon de vouloir être aimé plutôt que de vouloir être convaincre. Cette façon de vouloir être aimé fait partie de tout ce mouvement qu'on peut trouver dans toute la classe politique de dépolitisation. Quand on parle comme ça, on dépolitise. Et chacun, à sa façon, dépolitise en ce moment. Quand Éric Zemmour quitte le champ naturel du débat en disant « je ne suis pas », il ne dit pas « je ne suis pas d'accord avec vous », il dit « ce que vous dites est faux ». Donc, on n'est pas dans ce champ-là. Quand Emmanuel Macron casse le clivage droite-gauche et dit « bah moi, je suis simplement pragmatique et je fais ce qu'il faut, je suis le camp de la raison et le reste, c'est pas la raison », c'est de la dépolitisation. Donc, c'est un des aspects de la dépolitisation. C'est quand on essaye de séduire plutôt que de convaincre.
Et dans ce registre, ce qui a été aussi un peu moins relevé du côté d'Éric Zemmour, c'est que lui aussi, il a eu sa petite séquence émotion lors de son meeting. J'ai connu, nous a-t-il dit, à 10-12 ans, les huissiers qui frappent à la porte, l'obligation d'aller vivre chez mes grands-parents parce que mon père ne pouvait pas payer le loyer.
On ne plaint pas tous.
Il y a cette complètement, mais c'est moins retenu que chez une femme, que chez Marine Le Pen, candidate. Toutes les raisons qu'on a pu évoquer.
Alors, on va parler dans un instant des sondages. Toujours est-il que dans la majorité, on continue de cibler Marine Le Pen. C'est a priori elle qu'on s'attend à voir au second tour. Gérald Darmanin était l'invité de Question Paul sur France Inter à la mi-journée. Le ministre de l'Intérieur, qui aime beaucoup faire son marché, visiblement, considère que la principale adversaire, c'est donc Marine Le Pen.
Oh, je ne sais pas ce qui inquiète le président de la République, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est Marine Le Pen. Je vais revenir sur mon thermomètre parce que marché de Tourcoing, on parle de Marine Le Pen, on parle du président de la République et de Marine Le Pen.
On parle plus
de la gauche socialiste. Non, on ne parle pas de Zemmour sur le marché de Tourcoing, mais je n'ai pas la même sociologie peut-être que d'autres. Hein.
Et celle qui est la plus à même de battre Emmanuel Macron pour l'instant, vu que les sondages bougent beaucoup, ça risque quand même d'être Valérie Pécresse.
Je pense que c'est Marine Le Pen.
Yael Gauz.
Ah, je pense que Gérald Darmanin était en opération rattrapage personnel, politiquement, parce que il y a un an, il était invité, souvenez-vous, d'une émission sur France 2, l'émission politique, et il disait qu'elle était trop molle. Elle était en duel, en débat face à elle. Marine Le Pen est trop molle. Moi, ministre de l'Intérieur, je fais plus de choses contre l'islamisation et l'immigration illégale que ce que vous proposez, vous, Marine Le Pen. Or, ça, c'était venu fracasser l'une des stratégies adoptées par En Marche à l'époque. Christophe Castaner disait exactement le contraire de Gérald Darmanin sur le cas de Marine Le Pen. Et aujourd'hui, on voit bien que l'objectif qui est recherché, c'est de pouvoir être, comme disait Thomas, le camp de la raison contre le camp des extrêmes. Donc il faut pouvoir avoir ce duel-là dans l'idéal et ne pas avoir une Valérie Pécresse au deuxième tour qui pourrait mordre un petit peu, être un peu plus ton sur ton avec les équipes Macron et certains qui ont eux aussi flirté avec les LR. Donc c'est plus compatible, on va dire, plus flottant. Donc là, c'est une manière de remettre l'église au milieu du village, le duel là où il doit être, dans la stratégie recherchée par les macronistes.
Sachant que pour l'instant, les sondages montrent quoi que ça va être serré pour la troisième place. Je vous donne le Ipsos pour France Info, le Parisien. Donc Emmanuel Macron toujours largement en tête au premier tour, y compris dans le sondage IFOP du jour. Valérie Pécresse à 16,5, mais Marine Le Pen et Éric Zemmour à 14.
C'est un bouchard de poche, oui.
Rien n'est joué, Charles Sapin.
Alors, c'est vrai qu'il y a, dans ce propos de Gérald Darmanin, il y a sûrement une petite session de rattrapage. Mais tout de même, moi, je me souviens de cette interview, cette double interview, c'était il y a deux dimanches. Vous aviez dans le JDD et dans le Parisien, vous aviez Richard Ferrand et Gérald Darmanin qui disaient peu ou prou la même chose. Marine Le Pen est en fait le pire risque pour la République. Elle ne fait pas partie de l'humanisme. En fait, c'est des banderilles que des proches du chef de l'État mettent à Marine Le Pen pour désigner l'ennemi. Et c'est intéressant parce que ça fait penser aussi à cette stratégie qu'on a connue pendant les européennes, où le clivage n'est plus droite-gauche, mais entre mondialistes et nationalistes, entre eurosceptiques et pro-européens.
Et qui arrange Marine Le Pen d'ailleurs.
Tout à fait, et qui arrange Emmanuel Macron. On l'a vu d'ailleurs ces quatre ans, pendant quatre ans, le chef de l'État et Marine Le Pen dansaient une sorte de tango ensemble, rentraient dans une opposition pure et parfaite qui asphyxiait toutes les autres forces d'opposition. Et on a l'impression que c'est cette petite musique-là qui recommence et qui va jouer de la même façon à l'avantage d'Emmanuel Macron, puisqu'il a avantage à retrouver Marine Le Pen contre lui au second tour, parce que c'est son négatif parfait, parce qu'elle mobilise des classes populaires qui sont certes disparates, qui se mobilisent moins dans les urnes, mais qui sont plus nombreuses dans le pays, et lui mobilise un bloc élitaire, qui est moins nombreux dans le pays, mais qui lui est acquis et qui se mobilise beaucoup plus dans les urnes.
petite question à propos du second tour. Si Marine Le Pen est au second tour ou Éric Zemmour au second tour, est-ce que les voix s'additionnent? On entendait Gilbert Collard qui aujourd'hui dit va bien falloir.
C'est toujours compliqué les additions.
Ce sont deux électorats différents.
D'abord, en politique, on ne parle jamais d'addition, on parle de dynamique. Donc, quand il y a une dynamique, ça fait des additions et ça peut même faire des multiplications. S'il n'y a pas de dynamique, ça ne fait pas des additions. Alors, le second tour crée toujours une dynamique, mais comme il y a des stratégies différentes, je ne sais pas si Éric Zemmour sera ravi d'appeler à voter pour Marine Le Pen, par exemple, aussi clairement, parce qu'ils ont des stratégies différentes, mais les électeurs sont de plus en plus libres maintenant, même à l'extrême droite, les électeurs sont de plus en plus libres, à mon avis, et donc les additions... Après, la dynamique du premier tour pourra marcher, je pense.
On peut sans doute penser qu'il y a quand même des similitudes et des cousinages entre l'électorat d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. En revanche, pour revenir au point que l'on vient d'évoquer, je ne sais pas et je ne suis pas sûre que le Front républicain que l'on a pu observer lors des dernières élections se mettrait en place si Marine Le Pen était au second tour. Raison pour laquelle, je sais qu'on a beaucoup tendance, nous les journalistes, à avoir beaucoup de stratégies dans la stratégie, dans les déclarations que peuvent faire les candidats. Je ne suis pas sûre que Gérald Darmanin, en affirmant que Marine Le Pen représente un plus grand danger pour lui, ne vise pas juste, pour le coup, dans l'analyse, parce que pour cette raison précise de la mise en place d'un front républicain qui est plus hasardeuse dans l'hypothèse de la présence d'une Marine Le Pen au second tour.
C'est pour ça qu'elle veut apparaître comme la gentille fille pour un peu démobiliser un électorat de gauche qui ne pourra pas dès lors avoir l'impression d'aller lutter contre le fascisme.
Et oui, pour prolonger ce que vous dites, moi ce qui m'a frappé ce week-end, c'est cette image de Lille SOS Racisme qui manifeste avec Martine Aubry, retour aux sources, contre Éric Zemmour et non plus contre Marine Le Pen, en tout cas dans ce moment de campagne-là, comme si le Front républicain se déportait tout doucement, très discrètement vers Zemmour, en épargnant Marine Le Pen.
Petite question, Charles Sapin, vous qui suivez l'extrême droite, quand vous allez dans les meetings de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, ce sont deux publics différents ou pas ?
Alors, c'est deux publics assez différents en réalité. Vous avez beaucoup plus de CSP+, de catégories assez bourgeoises dans les meetings d'Éric Zemmour. Vous avez une population plus jeune. Dans les meetings, par exemple, hier à Reims, il y avait beaucoup de il y avait quasiment que ça d'ailleurs, des catégories populaires en fait. Et donc c'est des électorats...
Le Front National, là, pour...
de Marine Le Pen. Oui, pardon, je n'ai pas précisé. Non, là on retrouve vraiment les classes populaires, mais d'ailleurs ça
et
se voit...
plus de femmes au meeting de Marine Le Pen ?
Oui, il y en avait aussi, il y avait plus de femmes. Mais d'ailleurs ça se voit, si vous voulez, dans les détails des intentions de vote. Marine Le Pen est la championne toute catégorie du vote ouvrier. On est sur 42% des ouvriers. Il faut se souvenir qu'au paroxysme, le Parti communiste, c'est-à-dire législatif de 78, c'était 31% du vote ouvrier. Donc c'est un truc. Et pour revenir sur cette logique, est-ce que ces deux électorats différents peuvent se rejoindre au second tour ? C'est vrai qu'un électeur, tous les électeurs ont quelque chose en commun, c'est la volonté de gagner. Donc 24 heures avant le premier tour, ils vont se dire, bon, quel candidat peut porter le plus loin mes idées ? Le problème, c'est que on voit un débat à distance entre Éric Zemmour et Marine Le Pen qui s'envenime très durement, avec des propos qui sont des propos définitifs. Et c'est vrai qu'on commence à se dessiner, mais sur les réseaux sociaux, et quand moi je fais les meetings des uns et des autres, les propos sont très très durs sur l'un et sur le candidat d'en face, en fait, qui pourrait en effet remettre en cause cette logique de report de voix.
Évidemment, et ça, ce sera plus difficile de se rabibocher au second tour. Vous êtes toujours à l'écoute d'un dimanche de campagne avec à nos côtés ce soir Charles Sapin du Figaro, Ava Jamshidi de Elle, Thomas Legrand et Yael Gauss de France Inter. On va passer à l'actualité d'aujourd'hui. Fabien Roussel était à Marseille cet après-midi pour son premier grand meeting de campagne. Là, pas de surprise, la question sociale était plus que jamais à la une, et tout particulièrement la politique d'Emmanuel Macron.
Est-ce qu'il coûte cher ? Mais il faut le dire, c'est tous les cadeaux qui ont été faits depuis 5 ans, grande fortune quand même. Ça prive le budget de l'État, le budget de la nation, de 100 milliards d'euros d'argent par an. Ce sont les riches qui nous coûtent cher. Ce qui coûte cher, je rigole d'avance, ce qui coûte cher, c'est sa théorie du ruissellement. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement. Le roussellement, ça va faire jaser ça. Le roussellement, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux Français.
ça vous plaît, Yael Gouvin?
Mais c'est, il a le sens de la formule, c'est un ancien journaliste, Fabien Roussel, il sait faire des punchlines, en effet,
comme, c'est important,
comme l'histoire de la bonne bouffe française récemment. En fait, il arrive à faire parler de lui avec des punchlines, comme on dit en anglais, je cherche le francisisme, le mot français, c'est quoi?
Des bons slogans,
des bons slogans, voilà, des bonnes phrases qui vont faire parler, et ensuite lui permettre, en fait, derrière, de développer ses idées, de faire connaître, en fait, sa marque, et donc les idées que porte le Parti communiste aujourd'hui. Donc c'est une vitrine pour qu'on parle après de ses idées. Et alors ce qui m'a frappé, moi, dans ce meeting, c'est qu'on est à Marseille, bien sûr.
Pourquoi donc, Marseille, justement?
On est chez Jean-Luc Mélenchon. Donc il commence par Marseille, il finira par le Nord. Mais c'est évidemment une idée de montrer que le Parti communiste n'a pas peur de la France insoumise. Vous n'avez pas eu de candidat communiste à la présidentielle depuis 2007. C'était Marie-Georges Buffet, et elle avait plafonné à moins de 2%, 1,93% des voix. Là, vous avez Fabien Roussel qui redonne une fierté à un parti qui n'a plus de candidat, qui s'est fondu dans le Front de Gauche, fondu dans les Insoumis en 2012 et 2017, et qui va jouer crânement sa chance, parce qu'aujourd'hui, dans les sondages, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, le Parti communiste, et ça c'est pas arrivé depuis les années 70, double le Parti socialiste. C'est quand même ça l'enjeu à gauche, dans la bataille à gauche qui se profile. On a Hidalgo et Roussel, ex aequo aujourd'hui, qui l'aurait imaginé?
À trois, c'est
à ça. À trois, c'est ça. Donc très très en bas de classement. Donc voilà, donc Fabien Roussel, effectivement, avait aussi à côté de lui sur scène, c'est assez frappant, la suppléante de Jean-Luc Mélenchon, Sophie Camard, à Marseille, maire de secteur. Donc tout ça crée quand même une ambiance à gauche où on est loin, on est très très loin pour Jean-Luc Mélenchon d'avoir accès évidemment au parrainage communiste qui lui avait permis d'avoir rapidement ses 500 parrainages il y a 5 ans.
La guerre des ralliements, elle existe partout, à votre Jamshidi, sur Fabien Roussel?
Elle existe chez Fabien Roussel, mais elle existe globalement aujourd'hui dans les 4 familles de gauche qui sont présentes. Elle existe également entre Christiane Taubira et Anne Hidalgo, entre l'ex-candidat Montebourg, dont un certain nombre de députés ont déjà rallié Fabien Roussel, parce qu'il y a effectivement cet enjeu, même si ce candidat bénéficie, comme on a pu le voir en 2012 avec Philippe Poutou, d'une forme de nouveauté. Enfin, il bénéficie de cette nouveauté, de cette fraîcheur et d'une expression assez déliée et différente de celle des autres candidats qui, pour le moment, ne s'observe pas, ne se transcrit pas en dynamique dans les sondages, mais qui pourrait peut-être...
Appeler aux journalistes.
J'ai une petite question. Yael Gauz nous disait, évidemment, Fabien Roussel a choisi Marseille, c'est pas par hasard. Question sur Anne Hidalgo, qui est à Lille, qui va d'ailleurs aller regarder le foot ce soir avec Martine Aubry. Pourquoi Lille? Allez, Thomas Legrand.
Pourquoi Lille? Lille, c'est la ville historique de la gauche populaire, la ville de Pierre Mauroy, la ville d'où tous les mouvements, toutes les campagnes socialistes partent. En tout cas, elles doivent passer. Ça doit être un moment important. Lille, c'est le peuple de gauche. On a beaucoup reproché à Anne Hidalgo d'être peut-être la candidate des bobos et des intellectuels du sociétal. Là, elle va montrer qu'elle est candidate populaire. Enfin, c'est un passage obligé.
Charles Sapin.
Dans le choix de Lille, il y a aussi, évidemment, mairie socialiste. Et ça m'interpelle. C'est Jean-Christophe Cambadélis qui avait confié cette analyse que je trouve assez savoureuse sur, en fait, la différence à gauche entre deux types de candidatures. Vous avez les candidatures de gestion et les candidatures de sens. Et il explique finalement la difficulté dans laquelle se retrouve Anne Hidalgo et plus largement le Parti Socialiste, parce que finalement, elle n'arrive plus à incarner cette candidature de sens. Alors la candidature de gestion, on s'en souvient, Anne Hidalgo au début de sa campagne, c'était la candidate du Caire. Ça peut séduire un électorat pour un exécutif local, pour que ça soit une mairie, une région. Et c'est un peu aussi ce qu'elle vient chercher un peu à Lille avec Martine Aubry. Mais dans une présidentielle, les électeurs cherchent des candidatures de sens. Et finalement, il y a une panne de sens. Dans la candidature d'Anne Hidalgo, on voit que la social-démocratie arrive plus à proposer des offres sociales nouvelles. Et ce qui explique notamment lors des dernières européennes, c'était pas Anne Hidalgo la candidate, mais pareil, le Parti Socialiste avait eu un score très très décevant, alors que la candidature de gauche qui portait un sens, les écologistes, était arrivée à 14%, bien plus haut qu'attendu.
Voilà, donc soutien de Martine Aubry aujourd'hui et de Bernard Cazeneuve qui va mouiller la chemise et prendre la tête de son comité de soutien.
Un dimanche de campagne. sur France Inter.
On en arrive à la semaine politique de Cyril Lacarrière. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Claire.
Cyril, comme chaque dimanche, un tour d'horizon des derniers jours de la campagne présidentielle.
Le vent souffle sur cette campagne présidentielle et cette semaine, il y a eu comme un air de dénouement. Quelques minutes après notre émission de dimanche dernier, la primaire populaire a rendu son verdict. Christiane Taubira a reçu la note bien plus. Près de 400 000 personnes ont participé à ce scrutin, un scrutin totalement inédit dans son genre et un succès indéniable pour ses organisateurs. Pourtant, 7 jours plus tard, difficile de ne pas partager le sentiment de Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.
Tout ça pour ça, en fait, hein, ça fait plusieurs mois que le débat est entravé, qu'on ne peut pas parler des projets, de la manière dont on veut affronter le dérèglement climatique, les inégalités dans ce pays, parce qu'on nous parle de rassemblement à gauche.
Et oui, d'union il n'y a pas eu, et une candidate de plus il y a bien eu, sauf que ça, Christiane Taubira ne veut pas vraiment l'entendre. En témoigne cette passe d'armes lundi matin entre la candidate et Marc Fauvel chez nos amis de France Info.
Arithmétiquement, il y a un socle démocratique.
Mais vous êtes une candidate de plus.
Non. Alors, soit vos questions sont en fait une impérieuse affirmation, soit vos questions me permettent de répondre.
Vous n'êtes pas une candidate de plus ?
Non, monsieur, non. Nous avons un processus. Non, je suis une candidate de plus pour celles et ceux qui considèrent qu'un processus démocratique, ça ne vaut strictement rien du tout. Vous avez vu quand même les résultats de M. Jadot et de M. Mélenchon.
Ils n'étaient pas volontaires pour être candidats à cette primaire. Ils n'ont pas fait campagne à cette
primaire.
Vous comptez
faire toutes les missions sur ce que pensent mes concurrents. Fallait les
C'est le principe d'une interview. Christiane Taubira s'est apporté du contradictoire.
Oui, bien entendu.
Mais si vous voulez parler pendant 20 minutes, allez-y.
Non, c'est pas que je vais parler pendant 20 minutes.
Dans ce cas-là, je peux quitter le plateau aussi.
Voilà, vous l'aurez compris, la primaire populaire n'a donc rien changé à la donne à gauche. Ségolène Royal qualifie la situation de bagarre d'égo. Elle annonce d'ailleurs déjà des lendemains douloureux pour les artisans de cette désunion.
S'ils ne sont pas capables, là, d'avoir suffisamment de sagesse pour faire alliance entre eux au moment de l'élection présidentielle, alors ce sera une bérésina pour ces partis politiques au moment de l'élection législative.
Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils viendront pas, moi. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus.
Cette semaine, le vent de cette campagne a joué la reconstitution d'une ligue dissoute, l'affrontement gauche-droite. Mercredi, le syndicat de policiers Alliance et la fondation Abbé Pierre avaient convoqué les candidats pour un grand oral. Et presque comme un réflexe pavlovien, chacun est allé s'adresser à ses électeurs. Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Yannick Jadot sont donc allés parler logement.
Mais quand vous avez une situation exceptionnelle, vous pouvez bloquer les prix. Il y a un article du Code du commerce qui le permet. Donc je peux décider de bloquer les prix des loyers.
Il faut construire. Je suis du côté des maires bâtisseurs et il faut produire du logement.
D'abord, je précise ma réponse sur le RSA ouvert aux jeunes. Quand je dis limité dans le temps, c'est jusqu'à ce qu'ils aient un emploi.
L'enjeu de la rénovation, il n'est pas majoritairement dans le logement social. Il est surtout dans le privé. C'est là qu'il y a le plus aujourd'hui de passoires énergétiques, c'est là qu'il y a le plus de précarité énergétique. Et donc, de ce point de vue-là, nous, la mesure, c'est de mettre 10 milliards d'euros par an sur la rénovation.
Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse sont donc, eux, vous l'avez compris, allés chercher le soutien des policiers.
Je tiens à vous faire part de mon admiration, à vous assurer que lorsque je serai chef de l'État, vous pourrez compter sur mon soutien total. Je serai la présidente de l'autorité retrouvée et respectée. Ma main ne tremblera pas.
Évidemment, le problème de la police, c'est une justice laxiste. Vous êtes aux premières loges d'un combat de civilisation.
Et les mots que nous devons prononcer à l'égard des policiers sont des mots de reconnaissance et de soutien. Et c'est pour ça que ce matin, je suis d'abord venue vous dire merci.
Et Cyril, dites-nous, le pas encore candidat Emmanuel Macron, il avait choisi d'aller où, lui ?
Eh bien, lui, il a d'abord envoyé Gérald Darmanin voir la police et il a fait une apparition du côté de la Fondation Abbé Pierre, une apparition en vidéo pour celui qui n'est pas encore candidat, un flou qui commence d'ailleurs à taper sur le système de certains adversaires.
Je pense qu'on a tous intérêt à un vrai débat démocratique. J'appelle le président de la République à venir devant les Français rendre des comptes de son bilan, parce que la politique, c'est pas seulement des grands discours, et jamais, finalement, une campagne électorale n'aura été aussi atone.
Bruno Retailleau était remonté mardi et il n'est pas le seul. Vendredi matin, le patron des Républicains, Christian Jacob, s'en prenait lui aussi à la tactique d'Emmanuel Macron.
Je trouve que cette situation est totalement inacceptable et choquante. On a un président de la République qui se sert des deniers publics pour faire sa campagne. C'est-à-dire que on est clairement sur du détournement de fonds publics.
Alors le sujet Emmanuel Macron est-il en train de virer à l'obsession pour ses adversaires ? C'est un peu ce que pense le secrétaire général de La République En Marche, Stanislas Guérini.
Ce qui me marque, c'est que beaucoup de candidats, et je trouve que Valérie Pécresse en fait partie, au fond ont un projet qui est de battre Macron. Ils le répètent d'ailleurs à l'envi, je suis mieux placé pour battre Macron, mon projet c'est de battre Macron. C'est très marquant, et être contre Macron, ça ne fait pas un projet de société.
Pour finir, le vent de la campagne nous a fait entendre la voix d'une écrivaine cette semaine, celle de Leïla Slimani. Le prix Goncourt 2016 traduit un sentiment sous-jacent à cette campagne présidentielle.
Il y a une forme de panique morale aujourd'hui face à un monde qui change. D'ailleurs, dans mon roman, qui est aussi un moment de changement du monde, il y a la même forme de panique morale. Il y a cette idée d'une réaction où on se dit il faut revenir en arrière, il faut retraditionnaliser parce que on va perdre quelque chose. Il y a un monde qui va disparaître.
Avant de vous laisser quelques mots d'un certain Aurel San, les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué, ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée, la confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne? La peur et l'anxiété.
Vous êtes poète ce soir, merci beaucoup Cyril Lacarrière. Il y a beaucoup de choses dans cette semaine politique. Peut-être, première question, la primaire a-t-elle servi à quelque chose ou pas du tout? Yann Gauss.
Je pense que c'est encore un petit peu tôt pour le savoir. Si on se fie à la première semaine, réponse non. Puisque tout le monde est resté en piste, que même aujourd'hui, certains candidats de gauche estiment que Christiane Taubira est disqualifiée par cette sortie de route lorsqu'elle a parlé de la Fondation Abbé Pierre. Bon, c'est 30 secondes d'hésitation sur une demi-heure de discours.
Mais quelle hésitation, quand même.
Mais quelle hésitation qui révèle surtout un programme qui n'est pas encore bien visible, bien lisible dans la tête des électeurs de gauche. C'est ça qu'elle va jouer la semaine prochaine, une conférence de presse de Christiane Taubira mardi. Et maintenant, ça s'appelle la bataille de février. Donc c'est ça qu'elle va dérouler, un meeting par semaine, puis deux en mars, et surtout développer plus largement son programme, son projet, qu'on a un petit peu esquissé au moment de la victoire de la primaire populaire, mais ce socle-là qui est censé l'engager n'est pas forcément très clair, on voit pas forcément les divergences majeures entre Yannick Jadot, elle, et Anne Hidalgo.
Donc en fait, ça n'a pas servi à grand-chose. Charles Sapin, vous, que vous en dites?
Ah là, pour cette élection-là, c'est vrai qu'on voit pas trop l'utilité. Enfin, pour une candidate qui ne voulait pas être la candidate de plus, on lui a donné bien plus. J'aurais dit peut mieux faire, mais il pourrait y avoir en fait une utilité dans cette primaire, au-delà même de l'élection, parce que elle a été poussée par tout un tas d'organisations politisées, de groupes qui ont souvent, enfin depuis les années 80, qui ont toujours accompagné les candidats, notamment socialistes. Je pense à Terra Nova, je pense à Oxfam où il y a Cécile Duflot, je pense à Singa où il y a maintenant Benoît Hamon. Et là, c'est un peu la revanche en fait de ces groupes, de ces organisations politisées qui ont poussé cette primaire à la barbe des partis politiques. C'est un peu la revanche de la société civile avec un écueil, c'est que c'est des gens qui sont très très militants, qui viennent des centres urbains et finalement ils portent en eux la racine des maux de la gauche, c'est qu'ils sont complètement finalement divorcé avec les classes populaires, et ce qui explique pourquoi vous voyez le sondage Cevipof, on n'a plus que 24% des Français qui se disent encore d'une sensibilité de gauche. C'est le plus bas historique. Et pourquoi? Parce que en fait la gauche a rompu avec les classes populaires.
Enfin, 24% d'électeurs qui se revendiquent de gauche derrière un seul candidat, ça leur permettrait pour le coup d'être au second tour face à Emmanuel Macron. Moi je suis assez dubitatif quand même de la manière dont est abordée cette primaire qui est extrêmement différente sur la forme des autres processus de désignation qui ont pu avoir lieu dans d'autres partis. Mais enfin, il y a quand même la candidate du Parti Socialiste qui a appelé qui a dit elle-même qu'elle participerait à ce je ne sais pas s'il faut dire ce scrutin.
Et qui arrive cinquième.
Et qui arrive cinquième et qui fait l'inverse. Et, pardon de le relever, aujourd'hui, Christiane Taubira est devant Anne Hidalgo dans les... Alors, il n'y a pas beaucoup de points qui les séparent, c'est vrai, mais enfin, elle est quand même devant. Donc, je ne sais pas s'il faut jeter complètement ce mode de désignation et enterrer de cette manière la candidature de Christiane Taubira, qui est quand même, malgré quelques semaines de campagne, contrairement à Anne Hidalgo, même contrairement à Jean-Luc Mélenchon ou à Yannick Jadot, arrive quand même dans la majorité des sondages sur ces quatre dernières semaines, à touche-touche avec le candidat écologiste.
Merci pour cette analyse, Ava Jamshidi. Je voudrais qu'on dise un petit mot quand même de la droite. Hein. Valérie Pécresse était dans les Ardennes vendredi. Qu'est-ce qu'on en a retenu, Yael Gauss?
Valérie Pécresse, en fait, elle a surtout fait quelque chose en catimini en début de semaine dernière qui, ça m'a étonné qu'elle n'ait pas associé davantage de médias à ça, parce que c'est le secret militaire, mais elle était sur le Charles de Gaulle à Toulon. Et ça, pour cranter une femme présidente avec toute la dimension, la stature régalienne qui va avec, je ne sais pas qui a l'exclusivité de ces photos, c'est pas vous, elle, là-bas.
Non,
c'est peut-être match, je ne sais pas. En tout cas, j'avoue que ce moment-là aurait été, pour elle, aurait été utile d'être beaucoup plus utilisée, plus montrée, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, elle est sur un faux plat,
surtout
Valérie Pécresse. Elle est sur un faux plat, réellement, c'est-à-dire que elle n'arrive pas à crever davantage l'écran depuis sa victoire à l'investiture au Congrès LR. Donc elle a besoin de fendre l'armure. Elle, pour le coup, c'est le cas. Elle essaye par moments, à coup d'interview un peu plus personnelle. Mais pour l'instant, elle est aussi embarquée dans un truc difficile. C'est que vous avez au sein de ses équipes, notamment au côté Éric Ciotti, des passerelles possibles à un moment donné avec Éric Zemmour. Et donc dès qu'elle fait un pas trop à gauche, on lui dit « mais non, nous on n'est pas de ce bord-là ». Et dès qu'elle est un peu trop à droite, elle quitte les rives macronistes. Donc c'est très compliqué son positionnement.
Avad Jamchini, je crois que vous l'avez interviewé, Valérie Pécresse.
Pour le magazine Elle, sur les questions de femmes, effectivement, c'est une interview que vous
qui va sortir dans quelques jours.
Dans le magazine Elle, jeudi, tout à fait. Pour rebondir sur ce que vous disiez, elle a évidemment un problème de fond qui est de plus en plus palpable à mesure que la campagne avance. On a l'impression qu'elle n'arrive pas trop à trouver son positionnement. Soit elle est libérale, sociale, et on a l'impression qu'elle fait l'Emmanuel Macron je sais pas s'il faut dire en un peu moins bien ou en pas exactement comme Macron, soit elle fait du libéral nationaliste, et c'est un petit peu compliqué de se positionner par rapport à Éric Zemmour. Et là encore, comme pour Marine Le Pen, elle essaie de jouer cette carte de la candidate femme. Alors le petit sujet qu'elle a, c'est que cette élection est la première où il y a 5 femmes qui sont candidates. Je n'oublie pas Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière dans mon décompte, et que c'est très dur d'imprimer cette marque et de trouver ce ton pour elle.
Petite question, vous disiez tout à l'heure, Yael, le Charles de Gaulle, c'est des questions régaliennes, c'est l'international. Il y a eu cette erreur sur l'ambassadeur du Mali, et même erreur faite par Marine Le Pen. Est-ce que c'est grave ou pas quand on est en campagne, ce genre de choses, ou c'est du détail?
Je pense que c'est de l'écume éphémère, à mon
c'est
avis.
Pas bien grave.
Non, je pense pas.
C'est pas quelque chose de fondamental. On va évidemment en venir maintenant à la grande question du candidat fantôme, pas encore déclaré, mais présent dans tous les esprits, évidemment Emmanuel Macron. Pas encore candidat, c'est pas le moment, a dit Gabriel Attal, Charles Sapin, c'est de bonne guerre ?
Oui, c'est de bonne guerre. Et le chef de l'État, on ne voit pas son intérêt... comme ça, à 2 mois de l'élection du premier tour, de descendre dans l'arène pour se mettre finalement au niveau de ses principaux adversaires. On sort d'une période du Covid, enfin du moins on espère en sortir, où il a encore acquis plus de légitimité. Il s'affiche comme un président aux manettes. Enfin, il a plein d'avantages à rester là où il est. Et c'est vrai que du coup on voit, et d'ailleurs on voit ses adversaires qui n'arrivent pas trop à composer avec ça. Donc il refuse donc de descendre dans l'arène. Valérie Pécresse l'urge de débattre avec elle. Valérie Pécresse qui refuse de débattre avec Marine Le Pen. Marine Le Pen qui refuse elle-même de débattre avec Éric Zemmour, en sachant qu'Éric Zemmour accepte de débattre avec Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon regrette de l'avoir fait. Si vous voulez, le débat démocratique va très bien.
Ce qui est incroyable, c'est que en 2012, quand Nicolas Sarkozy ne s'était pas encore représenté, il n'avait pas encore fait sa déclaration, François Hollande avait fait son grand discours « Mon ennemi, c'est la finance », et là, ça avait accroché. Donc il n'y a pas besoin, normalement, il n'y a pas besoin que le président se présente pour que la campagne démarre. Mmh. Ça, c'est quand même incroyable, c'est un aveu de faiblesse qu'a dit ce que nous a fait entendre Cyril Lacarrière, Bruno Retailleau, qui l'avait dit sur France Inter, en disant « bah alors on peut pas faire campagne puisqu'il n'y a pas le président ». Normalement, d'ailleurs en 2012, après cet épisode, Nicolas Sarkozy a hâté sa candidature, la date de sa candidature.
Alors on va y revenir dans un instant, juste Yael, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, parce que là, l'argument massue que nous oppose l'Élysée pour dire qu'il rentre pas en campagne, c'est évidemment la situation ukrainienne, la crise en Ukraine qui va l'occuper.
Il y aura toujours une bonne raison.
Donc le Moscou, puis Kiev, mardi, mais... comment dire, l'Élysée se plaint du niveau du débat politique aussi en France, mais c'est vrai qu'en retardant le moment de rentrer dans l'arène, on retarde aussi le moment où on évoquera le projet encore très sibyllin du président de la République sortant. Donc il y a quand même un écosystème qui se mord la queue là.
Alors je vous promets qu'on va évidemment discuter de tout ça, mais on en arrive au bobino de Thomas Legrand, histoire de prendre un petit peu de recul et de voir justement ce qui s'est fait dans le passé ce soir, quand les présidents en exercice confirment l'évidence, à savoir qu'ils sont bien candidats, ce qu'on avait d'ailleurs compris. En fait, Thomas, tout est dans la façon de le dire.
Oui, ça commence par le général de Gaulle en 1965, 3 ans après l'indépendance de l'Algérie. C'est la première élection au suffrage universel direct d'un président depuis Louis-Napoléon Bonaparte.
Que l'adhésion franche et massive des citoyens m'engage à rester en fonction, l'avenir de la République nouvelle sera décidément assuré. Sinon, personne ne peut douter qu'elle s'écroulera aussitôt et que la France devra subir, mais cette fois sans recours possible, une confusion de l'État plus désastreuse encore que celle qu'elle connut autrefois.
Voilà, c'est moi le chaos, il y avait quelques raisons de le croire, mais moi ou le chaos. Donc, moi le chaos, c'est aussi pour Valéry Giscard d'Estaing en 1981.
Chacun de vous peut comprendre, par un raisonnement simple, qu'il serait conduit à coup sûr, et malgré lui, vers une société dont il ne veut pas, et vers la décadence. Adieu alors la solidité du franc et la liberté d'entreprise. Adieu l'indépendance nucléaire et le rôle de la France dans le monde.
Et rebelote, moi, le chaos pour François Mitterrand en 1988.
Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République?
Oui. Vous avez mûrement réfléchi?
Je le crois. J'ai beaucoup écouté les discours des uns et des autres. Et dans tout ce bruit, j'aperçois un risque pour le pays de retomber dans les querelles et les divisions qui si souvent l'ont miné.
Alors vous avez remarqué que la déclaration de François Mitterrand est très basique, sans emphase, dans un studio de télé, pas sous les ordres de la République, une simple réponse à une question de journaliste, oui. Et il ne fallait pas que sa candidature soit un événement, ça devait être le plus naturel du monde. Et en même temps, il fallait que ça soit dramatiser l'enjeu, donc une banalisation dramatique. C'est un peu contradictoire, un peu compliqué pour un président, pas tout à fait sortant, hein, puisqu'il était en cohabitation depuis des ans. Et Jacques Chirac, lui, bah, il était en situation de quasi-opposant, hein, mais depuis 5 ans. Alors lui, il n'a pas besoin de dramatiser l'enjeu, il ne faut pas qu'il le dramatise, puisque la France allait plutôt bien à ce moment-là, il n'y avait pas de crise majeure. Il choisit de répondre à Marie-Josée Rouague, maire d'Avignon, qui lui pose la question, évidemment, soufflée par l'Élysée.
Chère Marie-Josée Rouague, je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat.
Voilà, il faut que ça soit naturel et que ça soit évident. Et enfin, Nicolas Sarkozy, en 2012, ben, il tente une Mitterrand 88 avec la délicate banalisation dramatique.
Alors bonsoir, monsieur le président.
Bonsoir.
Nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. Avez-vous décidé de vous présenter et donc de briguer un second mandat auprès des Français?
Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Parce que la situation aujourd'hui de la France, de l'Europe et du monde, qui connaît depuis 3 ans une crise absolument sans précédent, fait que ne pas solliciter à nouveau la confiance des Français, ça serait comme un abandon de poste. Est-ce qu'on peut imaginer le capitaine d'un navire dont le bateau serait en pleine tempête, dire « ben non, je suis fatigué, je renonce, j'arrête ».
Ben non, on peut pas imaginer. Évidemment, à noter que les seuls présidents qui ont réussi à se faire réélire, à part De Gaulle, mais la première fois, il n'avait pas été élu au suffrage universel direct, sont Mitterrand et Chirac, tous les deux en cohabitation, donc en situation confortable de président opposant. On peut parier qu'Emmanuel Macron tentera lui aussi la banalisation dramatique.
Qui a un avis là-dessus, Yael Gauze?
Ben, certains s'interrogent à La République En Marche, c'est que plus le temps passe, plus la banalisation devient impossible. Il va falloir créer à un moment donné quelque chose de fort, qui embarque, un effet de souffle, un effet waouh, avec le programme derrière. On voit que depuis trois mois...
L'effet waouh sur le programme, mais pas sur la façon...
C'est une discussion qu'ils ont. En fait,
ce qui est intéressant avec les macronistes, c'est qu'on ne voit pas les mêmes, ils disent pas la même chose, parce que personne ne sait rien.
Ils sont dans le flou, autant que les journalistes. C'est ça qui est très amusant, c'est que pour toutes les opérations récentes, l'émission de TF1 le 15 décembre, Le Parisien face aux Français, et l'opération avec vous, l'affiche et le site internet, tout ça a été créé dans le plus grand secret. Vous avez un maître des horloges qui s'appelle Clément Leonarduzzi à l'Élysée, qui est le conseiller en communication d'Emmanuel Macron, qui pratique à merveille la culture du secret et qui qui surprend même
autant qu'il doit
les
pas
plus
en savoir
proches.
Grand chose surtout.
Un Christophe Castaner n'était pas au courant, par exemple, de Avec vous. Il l'a découvert quand c'est sorti. Avec vous, c'est cette plateforme qui est censée arriver à un moment donné, à force de petites cartes postales, jusqu'à Avec Emmanuel Macron. C'est ça l'idée. C'est un calendrier de l'Avent. Vous avez vu le post-it qui a été pris en photo du président qui dit, vous voyez, j'ai fait le pass culture sur Twitter. Bah, ce sont des cailloux semés jusque, bon, on dira Emmanuel Macron est là, avec vous. Alors, mais pour l'instant, il est sur la crise ukrainienne.
Voilà. Comment on l'annonce et quand on l'annonce, hein, parce que ça, c'est la deuxième partie de la question, Ahmed Jamsidi.
Alors, effectivement, il n'y a qu'Emmanuel Macron qui sait sans doute, qui connaît précisément la réponse à cette question. En revanche, le pari que fait le chef de l'État à ce stade, ça on peut déjà le dire, c'est que le plus tard il fait cette annonce, le plus tard il risque de perdre des points mécaniquement qui sont inhérents aux déclarations des sortants à la présidentielle. En revanche, je pense qu'il prend un petit risque quand même et qu'il oublie aussi l'exemple de Nicolas Sarkozy qui regrettait, lui, quand il expliquait sa défaite après, de ne pas avoir eu le temps d'entamer cette petite remontée consécutive à sa descente.
Ah, il est persuadé qu'il aurait remonté
deux semaines.
Exactement. Et donc, le calcul là du chef de l'État, eh bien, c'est de retarder ce moment au maximum dans l'espoir de perdre le moins de points possible.
Voilà, surtout qu'effectivement, vous le disiez, Yaël, cette semaine, c'est la question internationale qui est à la une, la Russie, l'Ukraine, il sera à Moscou demain, à Kiev après-demain.
À double tranchant aussi, hein. Il faut qu'il ait un résultat diplomatique derrière pour montrer qu'il est capable toujours d'embarquer l'Europe face aux Russes.
Enfin, il a parlé à Biden, il a parlé à Johnson, oui. Là il va...
Il ne faudrait pas une invasion de l'Ukraine avant la déclaration de candidature. Hein. Voilà.
À surveiller, sinon il nous reste deux petites minutes dans la semaine qui vient. Les événements marquants du côté de Valérie Pécresse, Jamshidi, qu'est-ce qu'on peut attendre?
Un grand meeting de la candidate de la droite, donc qui va se tenir au Zénith de Paris, lors duquel elle compte également fendre l'armure et essayer d'amorcer et de sortir du faux plat dont vous parlez tout à l'heure, Yaël. Pour essayer de mieux vendre sa candidature tout simplement à sa famille politique.
Ça c'est quand dimanche prochain.
Dimanche prochain.
Dimanche prochain du côté d'Éric Zemmour, Charles Sapin, qu'est-ce qui est prévu?
Alors il y a un déplacement, on ne sait pas encore.
Il est demain sur France Inter. Déjà.
Oui, demain matin effectivement, Thomas. Vous avez raison de le rappeler.
Alors demain matin sur France Inter, mais vendredi il y a un déplacement. On ne connaît pas encore l'endroit exact, mais on en discute beaucoup parce qu'on en entend beaucoup parler parce que c'est en Bourgogne. Or en Bourgogne, c'est un territoire qui n'est pas anodin puisqu'il y a des élus LR qui hésiteraient entre Éric Zemmour et s'il devait basculer, ce serait le moment ou jamais. Je pense notamment à Gilles Platré ou au sénateur Huppert. Pour ce qui est de Marine Le Pen, elle, bah maintenant qu'elle a lancé sa campagne présidentielle, et bah il faut qu'elle fasse des meetings. Elle va faire des meetings loin des lignes de TGV, proches des zones rurales, des catégories populaires. Elle commence. Toulon à part, elle commence à Toulon pour dévoiler son programme défense et après elle va aller dans les petits villages pour faire des meetings de proximité.
Et du côté du Parti Socialiste, Yael, est-ce qu'il va y avoir du nouveau là dans les jours qui viennent? On disait Bernard Cazeneuve reprend le flambeau.
Bah les moments forts c'était ce week-end. Hein. Cazeneuve, puis Aubry, calinothérapie autour d'Anne Hidalgo, Christiane Taubira, conférence de presse mardi. Et vous parliez de la gauche, mais il y a plein de petits signaux en fait qui viennent de l'Assemblée, qui passent sous les radars. Vous avez trois propositions de loi qui sont parfaitement ciblés dans l'agenda pour aller chercher les électeurs de gauche, la loi contre le harcèlement scolaire, la loi pour le prolongement du délai d'IVG, ça c'est mercredi à l'Assemblée, la loi aussi pour protéger les lanceurs d'alerte. Le calendrier de l'Assemblée a été organisé par En Marche et la majorité pour envoyer ces signaux-là avant fermeture de l'Assemblée aux électeurs de gauche.
Voilà, il n'y a pas de hasard dans ce calendrier. Un très grand merci à tous les quatre, Yaël Gauz, Ahmed Jamshidi, Charles Sapin, Thomas Legrand, et merci aussi à Cyril Lacarrière de l'autre côté de la vitre.
Cette élection, mes amis,
nous redonnerons vie à la démocratie.
Pourquoi pas nous?
Tous les Français.
Merci à vous tous d'être si nombreux.
Voilà ce que je vous propose. Alors,
et vous tous,
vive la République,
vive la liberté,
vive l'écologie,
et surtout, surtout.